Nous revenons après une pause à notre série sur les béatitudes. Avant de lire le texte, de relire le texte, je vous rappelle que notre Seigneur commence son sermon sur la montagne en brossant un portrait du vrai citoyen de Dieu. Dans la première béatitude et la dernière, il dit la même chose. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est-à-dire, ce sont les vrais enfants de Dieu. Le royaume est à eux. Et la dernière béatitude, en fait, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et entre ces deux béatitudes, les autres remplissent le portrait du vrai citoyen de Dieu. C'est ô combien important. Je trouve que les gens sont parfois vraiment dans la confusion au sujet de qui est chrétien et comment le savoir. Quelqu'un dit, mais il est chrétien, il lit la Bible beaucoup maintenant. Mais Jésus dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, car vous croyez en elles avoir la vie, mais vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. Quelqu'un dit, mais il témoigne aux autres. Il doit être converti. Mais Jésus dit aux pharisiens, vous traversez la mer et la terre pour faire un converti. Et lorsque vous l'avez fait, il est deux fois le fils d'enfer que vous êtes vous-même. Il prie maintenant. Il prie et même il jeûne. Comme le pharisien qui dit, Seigneur, merci de ce que je ne suis pas comme les autres. Je prie, je jeûne deux fois par semaine, je donne la dixième de tous mes biens. Et le Seigneur dit qu'il rentre à sa maison, mais qu'il n'est pas justifié. Donc, il est très important pour nous de ne pas penser que on peut dire que quelqu'un est un vrai chrétien à base de certains actes extérieurs. Lire la Bible, prier, témoigner. Jésus, lorsqu'il veut identifier les vrais croyants, il emprunte un autre chemin. Il ne parle pas de ce que fait extérieurement, il parle de l'état du cœur en premier. Et son portrait d'un chrétien est tellement bouleversant. Ces béatitudes posent sur la terre une personne complètement différente, radicalement différente. Et aussi un portrait qui nous motive vers une sainteté qui n'est pas pharisienne du tout. Mais l'évangile remplit ces béatitudes et nous allons maintenant les lire. Voyant la foule, verset 1, Jésus monta sur la montagne et il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui se lamentent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur ou simple, qui cherchent une chose, qui cherchent la vérité, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous avons vu dans nos séances précédentes, et je le dis juste en résumé, que au début de ces béatitudes, nous voyons l'homme dans sa disette. Il est pauvre, il n'a pas de justice pour se recommander à Dieu, il est pauvre spirituellement, pauvre en esprit, il est pécheur, il n'a rien pour se dire « à cause de ce que je suis, accepte-moi », il est pauvre, il n'a rien. Et il se le voit. Il se le voit et il se présente à Dieu comme tel. Et Jésus dit, bienheureux ceux qui se voient comme ça, car ils sont dans le royaume. Notre disette remplie par la grâce de Dieu, c'est ça l'évangile. Nous qui n'avons rien, et Dieu qui remplit. Regardez la deuxième. Heureux ceux qui pleurent. Tellement radical, tellement à l'envers. Nous, la famille de Dieu, tellement différent. Nous qui, dans notre chambre, lorsque personne n'est là, les larmes croulent et on se lamente et on se tortille parfois. On est tellement désolé. Ô Seigneur, mes péchés, mes péchés. Et le Seigneur dit, heureux, vous êtes bien heureux, parce que vous serez consolés. Parce que le non-chrétien ne fait pas comme ça. Il dit plutôt, merci que je ne suis pas comme les autres. Et le vrai chrétien dit, oh, je suis tellement comme les autres. C'est tellement à l'envers. Et donc, nous voyons que le Seigneur nous remplit de sa grâce, nous qui voyons notre disette et qui nous accrochons de lui. Donc nous arrivons à cette béatitude dans le verset 9, où nous lisons ceci, « Heureux ou bienheureux ceux qui procurent la paix. » Ou plus littéralement, parce que c'est un seul mot, « les faiseurs de paix. » Les faiseurs de paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Après cette introduction, premier point. Vous savez vous-même, comme moi, que nous vivons dans un monde de discorde. Savez-vous qu'il y a 21 conflits dans le monde aujourd'hui, en 2016, qui tuent plus de 1000 personnes par année, allant à Birmanie, allant en Colombie, allant en Somalie, allant aux Philippines, allant à Yémen, en Mexique, pour ne pas parler d'Irak et de Syrie. 21 conflits, discorde, hostilité, pas de paix. Et en plus de cela, il y a 16 endroits dans le monde où il y a des conflits qui tuent moins de 1000 personnes par an, mais parfois ces conflits durent des décennies. Allant en Palestine, allant au Mali, au Thaïlande, au Niger, en Turquie, où il y a le conflit kurde qui dure depuis des années, des années, des années. Si nous voulons nous rapprocher de nous-mêmes, sans parler du terrorisme, nous pouvons nous rappeler qu'en France, à peu près 170 femmes meurent chaque jour suite aux violences de leur conjoint. Une femme tous les 3 jours, pas de paix dans le foyer. Environ 150 000 divorces chaque année en France, pas de paix. Et comment pourrions-nous compter le nombre de conflits de voisinage, de disputes familiales, de discordes au travail? Pas de paix, pas de paix. Deuxième point. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour apporter la paix, la vraie paix, avec lui-même, et puis pour faire une société de paix un jour. Nous pouvons nous rappeler que tout le plan de Dieu en Jésus-Christ, toute la bonne nouvelle, se résume dans cette annonce des anges le jour de la naissance de notre Sauveur, où nous, selon Luc, soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » C'est ça qu'annoncent les anges. Dieu vient et vient pour établir la paix, l'harmonie, l'amour, la réconciliation. Nous voyons ça lorsque la Bible décrit l'œuvre de notre Seigneur de cette façon. Il a plu à Dieu de faire habiter en Christ toute la plénitude et de tout réconcilier. C'est ça la paix, de faire la paix, de se faire ami. Dieu, de tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix. Et les amis, ce mot « faisant la paix », c'est le même mot que dans la béatitude. C'est le verbe qui correspond au nom « faiseur de paix ». Bienheureux les faiseurs de paix. Alors, c'est ce verbe qui est ici en Colossiens. En faisant la paix par lui, Jésus, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois ennemis, étrangers, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Cette paix est une paix qui doit s'installer d'abord entre toi et Dieu. Sans cela, il n'y a pas de paix profonde et réelle entre prochains. C'est impossible. Mais cette paix que Dieu apporte par Jésus-Christ entre toi et le Père, c'est une paix qui va maintenant faire de toi une unité dans une société sauvée, changée, paisible, en paix avec Dieu et en paix les uns avec les autres. C'est incroyable quand on pense à cela. Quand le collégien va à l'école, la première journée du collège, il a la trouille. Pourquoi? Il ne sait pas s'il va être accepté, s'il va y avoir de la harmonie, n'est-ce pas, entre les membres de la classe. Est-ce qu'on va être hostile envers moi ou non? Mais la Bible annonce que Dieu crée une famille de paix. Mais maintenant, Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. C'est lui notre paix. Lui qui des deux, non-juifs et juifs, qui étaient en hostilité les uns contre les autres, n'a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec les commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux peuples, un seul homme nouveau en faisant la paix. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux dans un seul corps, par sa croix. Eh bien voilà cet évangile, et c'est pourquoi j'ai demandé à Joël de lire ce chapitre, ce passage en Ésaïe, où nous voyons qu'à la fin des temps, et ce temps s'approche de nous, s'approche, où de leurs glaives ils forgeront des hoyaux, de leurs lances des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre, parce qu'il sera resté sur une nouvelle terre, un peuple uni et en paix. Ok, ça c'est le deuxième paix. Le deuxième point, c'est le Dieu de paix. Et vous savez que souvent, vers la fin de ses épîtres, Paul appelle Dieu le Dieu de paix. Seulement vers la fin. Je ne sais pas pourquoi. Mais on le trouve en Romains, on le trouve en Hébreu, on le trouve en 1 Thessaloniciens de cette manière. Le prince de paix, Jésus-Christ, l'esprit de paix, le Saint-Esprit. Troisième point. Tous les enfants de Dieu sont des faiseurs de paix. Alors, je vous parle maintenant à vous. Si vous êtes vraiment croyant, vous avez la ressemblance familiale. Et le Dieu qui aime se faire des amis, le Dieu qui aime lier l'amitié avec son ennemi, le Dieu dans le travail et la réconciliation, parce que c'est dans son cœur de grâce, a mis son esprit en vous. Mais ça veut dire que vous et moi, imparfaitement, mais réellement, il y a eu un changement. Peut-être que vous étiez râleur, peut-être que vous étiez difficile à raisonner, peut-être que vous étiez quelqu'un qui causait des conflits un peu partout, mais avec votre conversion, quelque chose change profondément. Et vous devenez un faiseur de paix. Maintenant, nous voulons poser cette question. Qu'est-ce qu'un faiseur de paix? Ce n'est pas quelqu'un qui est indulgent, simplement. N'est-ce pas? La paix à n'importe quel prix. Même s'il faut balancer la vérité, la justice, on veut tous simplement être tranquille avec les uns avec les autres. Non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas en paix, chers amis. Nous ne sommes pas en paix avec le péché. Et nous ne sommes pas en paix avec l'hérésie. Et nous ne sommes pas en paix avec le mensonge. Mais nous faisons la paix avec les menteurs, avec les hérétiques, si nous pouvons, les uns avec les autres. Nous cherchons à faire la paix. Un faiseur de paix n'est pas non plus quelqu'un qui a simplement un tempérament paisible, naturellement. Jésus ne parle pas d'un truc naturel. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont un peu zen. Mais ce n'est pas du tout de cela que Jésus parle. Il parle d'une qualité surnaturelle qui vient du royaume de Dieu. Et ce n'est pas simplement le fait d'aimer bien la paix quand on peut l'avoir. Ou même d'être quelqu'un qui est d'habitude qui est en paix avec les autres. Parce que Jésus ne dit pas bienheureux ceux qui aiment bien être en paix avec les autres. Il dit bienheureux les faiseurs de paix, ceux qui créent la paix entre d'autres personnes. Vous voyez, c'est une action qui va au-delà de moi-même et je suis quelqu'un qui dans ma vie provoque, crée, amène la paix entre les gens qui sont en dehors de moi-même. Et ce n'est pas simplement quelqu'un qui amène une paix sociale au travail, qui réconcilie deux personnes qui ont une prise de bec, n'est-ce pas? C'est très bien, c'est très bien. Mais même les non-chrétiens font ça. Jésus parle de quelque chose qui est impossible aux non-chrétiens. D'accord? Il parle de quelque chose qui demande qu'on soit dans le royaume des cieux parce que c'est surnaturel, cette action. Et donc, il parle de quelqu'un qui apporte non seulement une paix humaine, mais la vraie paix la plus profonde, c'est-à-dire la paix avec Dieu d'abord. La paix évangélique et la paix entre personnes humaines qui vient uniquement de ce que l'Évangile peut effectuer chez eux. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Écoutez ceci. Maintenant, je soutiens que dans ce passage, Jésus est en train de parler principalement de notre rôle de témoin de Christ qui amène des gens à être en paix avec Dieu. Principalement. Parce que tout de suite après, il va dire « Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de moi. » Et donc, c'est dans le contexte, ça va vraiment bien ensemble. Mais je vais vous montrer une autre raison. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai dit que le même mot est utilisé en Colossiens chapitre 1 lorsqu'il s'agit de Christ qui fait la paix entre Dieu et les hommes par sa croix. Il est le premier faiseur de paix et la paix qu'il fait, c'est le paix de réconciliation avec Dieu. Même lorsqu'il réconcilie les juifs et les non-juifs, comment le fait-il? Par la croix. En réconciliant les deux peuples avec Dieu, il les réconcilie l'un avec l'autre. Vous voyez, c'est comme un triangle. Si je peux faire rencontrer les deux lignes, si les deux lignes vont en haut, ils vont se rencontrer. Et si deux peuples se réconcilier avec Dieu, ils se réconcilient l'un avec l'autre.
Et donc moi, je vous parle d'une profonde paix et harmonie entre gens que seul l'Évangile peut créer.
2 Corinthiens 5 nous dit ceci, écoutez bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés, voilà la paix, Dieu est faiseur de paix, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a fait la paix avec nous et il dit maintenant, vous êtes une prolongation de moi. Je vous donne ce ministère, vous êtes faiseur de paix. D'accord ? Comme moi. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Faisons ami, Dieu vous dit. Et si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, entendez ma voix s'il vous plaît. Dieu vous dit une chose très simple et très claire et très bonne. Faites ami avec moi. Moi je veux faire ami avec toi. Par Christ. C'est formidable. Mais le passage nous dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs, faiseurs de paix, pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés. Et si vous n'êtes pas réconciliés, vous pouvez partir d'ici réconciliés avec Dieu aujourd'hui. C'est incroyable. Quoi que vous ayez fait, quelle que soit votre histoire, ça n'a aucune importance. Vous venez avec vos péchés par le sang de Jésus-Christ. Il a tout payé et il vient vous dire, faisons ami. Faisons ami. Accepte seulement mon œuvre pour toi. Et donc, vous voyez pourquoi je pense que lorsqu'il dit bienheureux les faiseurs de paix, je pense que d'abord, il veut dire que tout chrétien, la marque de tout chrétien, c'est que nous sommes des gens qui réconcilient des hommes avec Dieu. Il nous a donné le ministère de réconciliation. Il a fait de nous des ambassadeurs. Et c'est comme si Dieu parle en nous. Nous ne pouvons pas nous en empêcher lorsque nous avons la possibilité, lorsque nous avons la grâce et la hardiesse de le faire. Et parfois, il nous manque de le faire. Je suis d'accord. Mais chacun de nous, quand Dieu nous donne la possibilité, eh bien, nous avons... Ça bouille. On a envie de dire... Je veux vous présenter quelqu'un qui veut être votre ami. N'est-ce pas? C'est ce que nous voulons dire aux hommes. Et nous sommes, par cela, profondément des faiseurs de paix. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix? De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et même lorsque nous sommes guerriers, nous luttons en annonçant la paix. Écoutez bien cette partie de l'armure chrétienne qui nous aide à lutter. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. Je voudrais vous montrer comment cet évangile crée une paix qui dépasse simplement ta relation avec Dieu, mais qui déborde. En 1861, il y a eu un des quatre grands événements de l'histoire de la France. Avec la Révolution française et d'autres, les historiens nous disent que la Commune, l'incident de la Commune, la répression de la Commune à Paris, a été un des grands événements de France. L'Allemagne assiège Paris, les gens sont tellement affamés qu'ils mangent tous les animaux dans le zoo à Paris. C'est incroyable, la disette, la souffrance. La France cède, c'est l'Alsace, à l'Allemagne, les soldats allemands se retirent, et presque tout de suite, il y a un soulèvement de la part des ouvriers. Paris est rempli de centaines de milliers d'ouvriers, pauvres, et influencés par le socialisme, le communisme qui commence à faire jour. Il y a donc un soulèvement, et pour faire court, les ouvriers arrivent à faire partir le gouvernement national à Versailles, et un gouvernement qui de la ville de Paris, qui s'appelle la Commune, est mis en place. D'accord ? Mais les soldats nationaux reviennent pour reprendre les rênes, et il y a des massacres. Il y a des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de massacres dans la ville de Paris. Et surtout dans ces quartiers pauvres comme Belleville et d'autres. 1861, la répression de la Commune, de ce gouvernement municipal mis en place par les communistes. 3 mois plus tard, un pasteur écossais débarque à Paris. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, mais il s'installe avec sa femme et il loue une salle, ensuite 2, 3, 4 à Paris. Et commence des réunions bi-hebdomadaires. Et en quelques mois, ces salles à Belleville et dans les quartiers ouvriers de Paris sont remplies. Les ouvriers affluent pour entendre l'évangile. Après 8 ans, il y a 23 salles à Paris, avec des dizaines de milliers de gens qui sont en train d'entendre l'évangile chaque semaine. Après 12 ans, il y a environ 115 salles dans toute la France, en Corse, jusqu'en Tunisie, par ce qu'on appelle la mission populaire évangélique, qui existe encore aujourd'hui, mais qui n'est plus du tout évangélique. Mais voilà ce qui se passe dans ces quartiers. Écoutez bien, je lis à partir des récits historiques de cet événement. Les rapports des policiers disent je traduis d'anglais parce qu'il y a un homme anglais qui a écrit des livres là-dessus parce que sa fille faisait partie de la mission. Les rapports de la policier relatent qu'un voisinage plus tranquille est le résultat sans faillir chaque fois qu'une nouvelle salle de prédication est établie dans un nouveau quartier. Un commissaire de police remarque: nous ne pouvons que vous souhaiter la bienvenue dans notre quartier. Vous êtes en train de faire notre travail, de travailler avec nous pour l'ordre et la moralité de la communauté. En 1875, un vieux artisan de Belleville, après une rencontre dans le quartier, a dit: si seulement il y avait plus de ces réunions, nous n'aurions plus besoin de policiers à Paris. Ces réunions ont tellement tranquillisé ce peuple qui était turbulent, violent, prêt à se soulever dans le quartier, qu'il n'y a pas eu de soulèvement, malgré le fait que tout était là, à cause des massacres, pour que dans les années après 1861, qu'il y ait des émeutes dans les quartiers pauvres de Paris, et on ne sait pas pourquoi il n'y a jamais eu d'émeute. Sauf que de multiples témoignages comme ceci sont présents. Je vous lis encore. Les policiers agissaient non seulement comme des gardiens pour garder l'ordre, parce qu'ils étaient à la porte des salles chaque soir, mais comme des aides pour inviter. Allez, entrez, on les entendait dire au peuple. Vous allez entendre des bonnes choses. Imaginez ça aujourd'hui, hein, les policiers. Quand les salles étaient bandées et personne ne pouvait plus entrer, ils permettaient que les gens s'amassent autour de la porte ouverte à condition qu'ils écoutent tranquillement.
Il serait bien, a dit un policier, s'il y avait 200 salles de prédication comme ça à Paris. Deux mois après avoir ouvert la première salle à Lyon, un des pasteurs raconte ceci. Le policier à la porte me disait qu'il y a déjà eu un changement palpable dans le quartier. Deux mois. Et tout cela pour vous dire qu'il n'y a rien comme l'évangile, comme cette bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime, qui veut faire la paix avec nous, qui veut nous donner son amitié et la vie éternelle pour changer l'optique, pour changer la mentalité, pour changer la disposition de l'homme, de la femme, du jeune. C'est formidable. Des faiseurs de paix. Juste en annonçant l'évangile. Je veux maintenant prendre juste un moment avant de tirer à la fin pour poser cette question. Que faut-il savoir pour toi en tant que chrétien pour que vous grandissiez en tant que faiseur de paix? La première chose, c'est que tout chrétien est un faiseur de paix et quelqu'un qui a le ministère de réconciliation. Tous. Deuxièmement, notre but et notre optique fondamentale en faisant part de l'évangile, en faisant la paix entre des hommes et Dieu, ce n'est pas de gagner un converti, encore moins de gagner un argument avec le non-chrétien, mais plutôt notre optique est de vouloir effectuer une réconciliation, de vouloir créer une amitié. Je me demande si, en témoignant, vous avez souvent cette optique, que nous avons reçu le ministère de la réconciliation et que nous sommes comme Dieu en train de dire « Faites la paix avec Dieu, soyez réconciliés, Dieu veut se lier en amitié avec vous. » Et cette note d'amitié, de paix, de réconciliation, doit vraiment être au-devant dans notre manière de parler aux non-chrétiens. Pas simplement de gagner un argument théologique, etc. Non, c'est un ministère de paix que nous voulons établir entre les dieux et les hommes qui sont en hostilité vis-à-vis de lui. Ensuite, être faiseur de paix est coûteux. C'est par le sang de sa croix que Christ a pu faire la paix entre trois anciens ennemis de Dieu et ton Dieu. Et pour nous aussi, il y a un coût. Parce que être faiseur de paix, ça implique que nous devons aimer des gens qui ne sont pas aimables et qui n'aiment surtout pas Dieu. C'est intéressant de voir que dans cette béatitude, Jésus dit « Heureux les faiseurs de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et cette idée revient à la fin du chapitre 5, au verset 43. Écoutez bien. « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, alors vous serez fils de votre Père qui, dans les cieux, qui lui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Donc nous sommes amenés à faire la paix, mais faire la paix avec les gens qui ne sont pas en paix. Donc, je crois que c'est le défi le plus grand que nous avons. Lorsque les gens ne sont pas aimables, ne sont pas gentils, ne sont pas corrects, d'être nous des faiseurs de paix parce que nous voulons les amener à la paix ultime avec Dieu lui-même. Aussi, si je vais être faiseur de paix, il faut que je tue en moi tout ce qui crée la discorde. Est-ce que vous n'avez pas de discorde avec quelqu'un? Et si vous en avez, parfois, vous allez voir que ça vient des choses comme ceci. L'ambition,
l'orgueil, l'égoïsme. Vous voulez ajouter, n'est-ce pas, la discorde vient de toutes ces choses qui sont en nous, la cupidité, la rivalité. Et pour être un faiseur de paix, nous devons tuer. Nous devons regarder les gens non plus à partir de notre point de référence égoïste. Non. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Un faiseur de paix ne regarde plus comme ça. Et lorsqu'on regarde les gens avec toutes leurs fautes et leurs aspects désagréables, si je veux être un faiseur de paix, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je les regarde comme victimes de leurs propres péchés. Oui, ils sont criminels comme moi, mais ils sont aussi victimes de leurs péchés. Jésus regarde la foule comme des brebis sans berger. N'est-ce pas? Et nous, pour être faiseurs de paix, nous devons avoir pitié, quelque part, des gens dans leur rébellion et dans leur hostilité contre Dieu. Être faiseur de paix ne se limite pas à notre action envers le monde non-croyant, mais c'est aussi quelque chose que nous vivons dans l'Église aussi, n'est-ce pas? Nous sommes des faiseurs de paix partout. C'est une manière d'être. C'est une manière, c'est une disposition qu'on cherche à faire la paix. Au reste, frère, dit Paul aux deux Corinthiens, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, supportant, en vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité par le lien de la paix. Vous pouvez imaginer quelques branches que vous allez brûler, petites bûches, et vous les prenez. Et vous mettez une corde au-dessus et vous liez ça, et comme ça vous pouvez facilement les apporter. Le lien de cette corde les met ensemble, et le lien de la paix, le lien de celui qui est faiseur de paix, lie l'Église dans une bonne harmonie, qui pardonne, qui cherche vraiment à être en paix les uns avec les autres. Et je crois que vous commencez à vous fatiguer, donc je vais m'arrêter là. Mais regardons le grand plan. C'est un appel formidable, vraiment quelque chose. La chose la plus attirante pour moi dans mon Dieu, c'est qu'il est faiseur de paix. C'est qu'il vient vers moi en disant paix aux hommes sur la terre. Réconciliez-vous avec moi. Et il m'appelle à être comme lui. Et c'est pour ça que Jésus dit, ils seront appelés fils de Dieu. Parce que dans la pensée hébraïque, quand on est fils de quelqu'un, ça veut dire qu'on a la ressemblance familiale. On voit le lien parental. Ah, je vois que tu es le fils d'un tel, tout de suite. Et chez nous, Jésus est en train de dire, ah, je vois tout de suite que vous êtes chrétien, parce que vous êtes tellement faiseur de paix. Réconciliation entre Dieu et l'homme. Les hommes entrent par cet évangile. Et vraiment, c'est un trait chrétien auquel peut-être nous ne pensons pas assez souvent. Quand je pense à mon caractère chrétien, ce que je dois développer pour plaire à Dieu, est-ce que je pense à ça? Or, c'est presque peut-être le plus haut point des béatitudes. Oui, ils seront consolés, oui, ils seront rassasiés, mais oh, ils seront appelés fils de Dieu. Ça, c'est peut-être le plus haut, d'être appelé un fils de Dieu. Donc, que le Seigneur nous aide à nous examiner. Est-ce que je suis faiseur de paix? Est-ce que l'odeur de la paix se promène là où je vais? Est-ce que j'amène des gens à Dieu? Parce que mon évangile est un évangile de réconciliation, de paix, d'amitié. Le Dieu qui se lie d'amitié avec les hommes. Et est-ce que cet esprit m'habite et influence ma manière d'être avec les autres. Que le Seigneur nous aide à glorifier notre Dieu de cette façon et gloire à Jésus-Christ d'être le prince de la paix qui nous a réconciliés avec Dieu.
Je vous invite à prendre un temps de prière commune maintenant pour répondre à la prédication que nous venons d'entendre.
Vraiment, sentez-vous libre de prier, même si vous êtes en visite ou en famille, donc sentez-vous libre de prier simplement, fortement si vous voulez, ou simplement dans votre cœur.